Il suffit de se replonger un instant à l'aube du XXe siècle, disons dans cette période charnière entre 1900 et 1914.
Ouais, l'âge d'or absolu de la carte postale.
C'est ça. Ce n'était pas juste un simple bout de papier, en fait. C'était le véritable réseau social de l'époque. Les gens s'envoyaient des milliards de ces petits rectangles de carton illustrés.
Pour donner des nouvelles, faire de la politique, ou même juste montrer leur rue.
Exactement. Et puis la grande cassure. La Première Guerre mondiale s'abat sur l'Europe. Un cataclysme d'une violence inouïe qui fauche des millions de vies.
Et qui laisse des sociétés entières exsangues, complètement traumatisées.
Des sociétés qui cherchent désespérément à donner un sens à ce massacre industriel, quoi.
Absolument.
La mission de notre exploration documentaire aujourd'hui, c'est de comprendre comment ce médium a priori si léger, si quotidien, qu'est la cartophilie,
a pu se transformer en un outil mémoriel aussi puissant.
Voilà, on va voir comment ces cartes postales ont capturé le deuil d'une nation, les luttes d'influence politique locale et l'évolution psychologique de la France d'après-guerre.
Tout ça à travers un prisme visuel très précis, hein. L'érection des monuments aux morts.
L'angle est d'une pertinence redoutable. Le monument aux morts, c'est vraiment le point de friction parfait entre le chagrin intime des familles et le récit national officiel.
Et pour mener cette analyse en profondeur, on s'appuie sur une source documentaire d'une qualité exceptionnelle. C'est un dossier central exhaustif qui a été publié dans le bulletin numéro 28 du Cartoclub Aveyronnais.
Un travail d'orfèvre, vraiment.
Ouais, qui se concentre spécifiquement sur l'Aveyron, un département rural profondément marqué par le conflit.
Et d'ailleurs, il est indispensable de rendre à César ce qui appartient à César dès le début de notre discussion. Ce dossier magistral sur les monuments aux morts a été rédigé par Guy Mazard et Gérard Naudan.
Leur recherche minutieuse, c'est littéralement la colonne vertébrale de tout notre propos aujourd'hui.
Absolument. Et il faut aussi saluer l'implication totale de Guy Mazard. Il n'est pas seulement co-auteur, il a aussi œuvré en tant que rédacteur en chef et concepteur de la mise en page de ce bulletin remarquable.
C'est vrai que c'est grâce à cette double casquette, éditoriale et visuelle, que le recueil prend toute sa force.
Bon, on va décortiquer tout ça. Car au-delà de la simple collection de vieux papiers, ce que ces deux auteurs nous livrent, c'est la radiographie d'une cicatrice collective.
Ouais, on ne parle pas seulement de pierres taillées.
Non, on parle de la manière dont des communautés entières, décimées, ont tenté de survivre psychologiquement.
Et le contexte démographique permet vraiment de saisir l'ampleur du choc. La guerre de 14-18, c'est pas un conflit lointain. Elle vide littéralement les campagnes de leurs forces vives.
Dans un département agricole comme l'Aveyron, les chiffres donnent le vertige.
C'est clair. Près de 15 000 hommes ne sont jamais revenus, officiellement comptabilisés comme morts pour la France.
15 000 ? Ça représente un peu plus de 4% de la population totale du département à l'époque.
Et dans certaines petites communes rurales, la saignée frôle les 10%. C'est un trou noir générationnel. Chaque famille, chaque ferme a perdu un fils, un frère ou un mari.
Le besoin d'inscrire ces noms quelque part, de matérialiser cette absence écrasante, ça devient une nécessité viscérale en fait.
Pour ne pas sombrer dans la folie collective, oui.
Ce déchirement, il transparaît d'ailleurs parfaitement dans les propos de Pierre Douzièche, un chercheur que Mazars et Naudan citent abondamment dans leur article.
Il a consacré un mémoire de maîtrise à ces monuments aveyronnais, c'est ça, hein ?
Exactement. Et sa démarche est passionnante parce qu'elle met l'histoire académique à une quête très personnelle ancrée dans ses propres racines familiales de l'ouest du département.
Mmh.
Il explique très bien cette dualité qui le fascine. D'un côté, la répulsion absolue face à l'horreur des tranchées, la boue, le sang, l'absurdité du commandement.
Et de l'autre, une véritable séduction pour la dimension esthétique, artistique et mémorielle de ces pierres dressées sur les places de village.
C'est ça. Le monument devient le seul tombeau accessible pour des corps souvent pulvérisés ou enterrés à des centaines de kilomètres de là.
Ce qui est fascinant ici, c'est le basculement complet du paradigme monumental. Si on regarde le 19e siècle, la statuaire publique, c'était un privilège purement élitiste.
Ouais, on coulait le bronze pour Napoléon, pour des maréchaux, des têtes couronnées.
Voilà, de grands politiciens. La base de la pyramide sociale n'avait pas droit à la pérennité de la pierre. Mais avec l'hécatombe de la Grande Guerre, l'État et les communes sont contraints d'inventer une héroïsation de masse.
Le simple soldat, le paysan aveyronnais devenu fantassin, il accède soudain à l'espace public.
Et ériger un monument dans chaque village, même le plus reculé, ça répondait à un double impératif. D'abord, offrir un lieu de deuil de substitution aux mères et aux veuves.
Ce qui est très humain finalement.
Oui, mais surtout, d'un point de vue politique, légitimer la boucherie. La pierre devait affirmer haut et fort que ce sacrifice inouï n'était pas vain.
Que la survie de la nation exigeait ce don de soi. C'est une rhétorique visuelle très puissante.
D'ailleurs, l'article nous montre que cette mise en condition des esprits, elle avait commencé bien avant l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand en 1914.
Ah oui, le dossier consacre toute une partie aux précurseurs.
Ces monuments érigés avant la Première Guerre mondiale, immortalisés par des cartes postales anciennes. On y découvre par exemple une carte de Milo, oblitérée en 1901, qui dévoile un monument patriotique inauguré dès 1897.
Et la composition est assez éloquente, hein ?
Complètement. C'est une Marianne classique, mais, et c'est là que c'est fou, elle est recouverte d'une lourde capote de soldat.
Et c'est encore plus explicite sur cette carte de Villefranche de Rouergue datant de 1909. Elle montre un monument commémorant la guerre de 1870.
La sculpture ne laisse aucune place à la subtilité. On y voit un poilu, un genou à terre, en train de recharger son fusil chasse-peau, la baïonnette solidement fixée au canon.
Il fixe un horizon ennemi, invisible mais omniprésent.
C'est l'esprit de revanche à l'état pur.
Mais oui, la défaite cuisante de 1870 face à la Prusse et la perte de l'Alsace-Lorraine, ça a infusé toute la Troisième République. Ces monuments précurseurs n'étaient pas du tout des espaces de recueillement pacifiques.
C'était des instruments de propagande, carrément.
Ils disaient aux jeunes générations qui passaient devant pour aller à l'école primaire « Préparez-vous, le fusil est chargé, notre tour viendra ». Et l'imagerie de la carte postale participait activement à cette diffusion du patriotisme martial.
Mais bon, la réalité des tranchées de 14-18 a balayé tout ce romantisme guerrier.
Totalement. Au lendemain de l'armistice de 1918, il n'est plus du tout question d'appeler à la vengeance avec panache. L'heure est au traumatisme brut, aux gueules cassées et à la gestion d'un deuil à l'échève industrielle.
Et pour bâtir ces milliers de sanctuaires locaux, il fallait résoudre une équation très pragmatique, le financement.
Le nerf de la guerre.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, l'argent, qui a toujours le don de révéler les fractures d'une société. Les communes rurales avironnaises, saignées à blanc par la perte de leur main-d'œuvre, elles étaient souvent ruinées.
Donc l'État central, conscient de l'urgence mémorielle, vote la loi du 25 octobre 1919. Une loi qui instaure un principe de subvention publique pour aider les municipalités à élever ses stèles.
Sur le papier, c'est une aubaine.
Sauf qu'en lisant les travaux de Mazard et Naudan, on s'aperçoit que la République impose une ligne rouge absolue. L'aide financière est soumise à une condition très stricte.
Le respect implacable de la neutralité de l'espace public. En clair, aucun emblème religieux, aucune croix, aucun symbole confessionnel ne devait figurer sur ces monuments subventionnés.
Il faut remettre cette exigence dans la chair de l'époque. On est en 1919. La loi de séparation des églises de l'État de 1905, c'est encore une blessure très vive.
Surtout dans des départements ruraux et profondément catholiques comme l'Aveyron.
Exactement. Le conflit entre la calotte et la République, entre le curé et l'instituteur laïque, ça structurait toute la vie locale. Demander à une mère avéronaise très pieuse, qui vient de perdre 3 fils à Verdun, d'accepter que le monument honorant leur mémoire soit dépourvu de toute espérance chrétienne.
Au nom de la laïcité de l'État.
Voilà. C'était vécu comme une violence inouïe, une deuxième mort en fait. La loi de 1919 va donc transformer le deuil en une véritable poudrière politique au cœur des conseils municipaux.
Sans prendre parti, on voit bien que la résistance locale face à Paris a été spectaculaire. Les cartes postales exhumées dans le dossier prouvent que de très nombreux villages ont envoyé balader le préfet et ses subventions.
À choisir entre l'argent de l'État sans croix et un monument surmonté d'un symbole divin payé par souscription locale, le choix était vite fait pour beaucoup.
Le dossier illustre cette défiance avec des communes comme Campagnac ou Flavin. D'ailleurs, la carte de Flavin, c'est un chef-d'œuvre de provocation vis-à-vis de l'État républicain.
Ah oui, on y voit la cérémonie d'inauguration d'un monument massif couronné par une immense croix chrétienne.
Et devine qui préside la cérémonie devant une foule immense ?
L'évêque de Rodez en personne.
Ou en grande pompe.
Le message envoyé par cette carte postale est super clair. Ici, on pleure nos morts sous le regard de Dieu, pas sous celui du ministère de l'Intérieur.
Cette guerre des symboles, elle a parfois donné lieu à des trésors d'ingéniosité de la part des maires qui tentaient de ménager la chèvre et le sou.
Qui voulaient à la fois toucher les précieux fonds de l'État, tout en apaisant la ferveur religieuse de leurs administrés, c'est ça ?
C'est ça. Et l'imagerie fige ces compromis, parfois un peu cocasses, que l'histoire officielle oublie souvent.
Les subterfuges décryptés par les auteurs sont grandioses. La carte de la commune de Palmas, c'est l'illustration parfaite. Sur l'image, on distingue une stèle civile qui semble parfaitement conforme aux directives de 1919.
Un soldat en uniforme s'apprêtant à lancer une grenade. Rien de religieux a priori.
Sauf que les édiles ont fait preuve d'une ruse magnifique. Sur le socle, très discrètement, ils ont fait graver une croix de guerre.
Formellement, c'est une décoration militaire, donc totalement inattaquable par le préfet.
Mais visuellement, le sculpteur s'est arrangé pour que ses proportions rappellent étrangement à s'y méprendre une croix latine catholique. C'est génial.
À l'inverse, à Saint-Chély-d'Aubrac, on assume une fidélité tapageuse à la République. La carte postale immortalise un obélisque majestueux surmonté d'un énorme coq gaulois.
Le bec ouvert, toute griffe dehors, chantant la victoire de la nation.
Le choix du symbole sommital, c'est toujours le reflet des rapports de force au sein du conseil municipal. Mais il y avait une figure diplomatique suprême, une sorte de passe-partout idéologique qui permettait de réconcilier les deux Frances.
Jeanne d'Arc.
Jeanne d'Arc. Son utilisation sur les monuments à Véronèse est un cas d'école de syncrétisme politique. Pour l'État républicain, la pucelle d'Orléans, c'est la patriote ultime, l'héroïne populaire qui a bouté l'envahisseur.
Largement célébrée dans les manuels scolaires d'Ernest Lavisse, d'ailleurs.
Et pour l'Église catholique, c'est une martyre de la foi dont la ferveur populaire va forcer le Vatican à la canoniser en 1920.
La boucle est bouclée. La carte postale de Sainte-Eulalie d'Olt illustre brillamment cette trouvaille. Le monument est dominé par une statue de Jeanne d'Arc en armure.
Et donc, devant cette pierre, le curé pouvait prononcer son homélie spirituelle. Et juste après, le maire anticlérical pouvait faire son discours sur le patriotisme républicain.
Le tout sans que l'un ou l'autre ne se sente floué et surtout en conservant la subvention étatique.
C'est fascinant. Et cette richesse de détails, qu'il s'agisse des croix déguisées, des coqs fiers ou des statues de saints, ça pose une question fondamentale sur la manière dont on étudie ces archives.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie méthodologiquement? Comment les auteurs, Mazars et Noda, ont-ils pu organiser cette profusion d'images, cette mémoire de pierre, une fois qu'elle est figée, imprimée et envoyée par la poste à des milliers d'exemplaires?
Face à un corpus de plus de 80 cartes postales, les auteurs ont dû établir une typologie rigoureuse pour dépasser la simple accumulation. Ils ont dégagé quatre grandes approches photographiques.
Qui correspondent en fait à quatre temps sociaux différents dans la vie du monument.
Exactement. La première approche, la plus rare et la plus recherchée par les historiens, c'est l'immortalisation de l'inauguration elle-même. Ces clichés sont des capsules temporelles d'une valeur inestimable.
Parce qu'ils documentent le moment précis où la pierre passe du statut de simple objet architectural à celui de sanctuaire sacré pour la communauté.
Et la carte de Valzergue, citée dans le texte, démontre toute la puissance de cette première catégorie. Contrairement aux cartes plus tardives, qui sont souvent désertes, celles-ci débordent d'humanité.
Le photographe a capturé une foule dense, incroyablement hétéroclite. On n'y voit pas que les notables en haut de forme ou les militaires gradés?
Non, il y a des femmes au visage fermé, des vieillards et une ribambelle d'enfants écarquillés entourant le monument tout juste dévoilé. La douleur y est palpable, elle est collective, partagée.
Mais le clou du spectacle dans cette catégorie, c'est la tolune d'Aubin. Un habitant a fourni au Carte Club une série exceptionnelle de quatre cartes photos, toutes prises le même jour, le dimanche 19 novembre 1922.
C'est du journalisme de terrain, avant l'invention des chaînes d'information en continu.
C'est incroyable.
Et la prouesse technique et financière pour l'époque est remarquable. En observant ces quatre clichés successifs, pris à quelques minutes d'intervalle, le lecteur du bulletin assiste à un véritable travelling cinématographique.
Le premier plan nous plonge dans le dos des officiels, avec le drapé lourd du drapeau tricolore.
Puis l'objectif se déplace, l'angle s'ouvre, on découvre la mère de visage anonyme écoutant le préfet, et ensuite le cadrage isole le groupe des mutilés de guerre.
Ces fameuses gueules cassées, que l'on cachait parfois, mais qui sont au premier rang ce jour.
Cette séquentialisation offre une anthropologie visuelle du rituel commémoratif. C'est très fort.
Mais une fois l'effervescence de l'inauguration retombée, les discours prononcés et les fanfares rentrés chez elles, le monument ne disparaît pas pour autant. Les photographes locaux ont continué de planter leurs trépieds sur les places publiques.
Ce qui nous amène naturellement à la deuxième catégorie définie par les auteurs, le monument animé.
L'édifice interagit avec le flux de la vie quotidienne. Et ce qui frappe dans les cartes sélectionnées par Pierre Douzièche, c'est l'omniprésence des enfants.
Sur la superbe carte de Coussergues, devant un monument de pierre très lourd portant la double inscription clivante Pro Deo Pro Patria, pour Dieu et pour la patrie, on voit des dizaines d'enfants qui prennent la pose, encadrés par quelques adultes graves.
Et la présence juvénile est tout sauf fortuite, hein.
Le monument est conçu comme un outil pédagogique redoutable. Il devait garantir la transmission du fardeau mémoriel. Les générations qui n'avaient pas connu l'odeur de la poudre devaient assimiler la dette qu'elles avaient envers ces listes interminables de noms gravés en lettres d'or.
Et l'évolution de cette pédagogie est frappante sur la carte de ces Bazac concourès qui datent des années 30.
L'image nous montre les élèves de l'école normale de Rodez, ces futures institutrices, posant sagement devant la stèle avec le gros autocar qui les a transportés garés juste derrière.
On assiste ici à la naissance d'un concept très moderne en fait, le tourisme de mémoire.
Le deuil spontané s'est institutionnalisé. Visiter le monument devient une sortie scolaire, une obligation civique organisée.
Le contraste avec la troisième catégorie, celle du monument isolé, n'en est que plus saisissant du coup.
Ah oui. Ici, le photographe vide la scène de toute présence humaine. Le monument devient le seul sujet.
La carte de Prats d'Aubrac, décrite dans le dossier, est poignante de mélancolie. L'auteur de la photo a choisi un dépouillement radical. La stèle s'élève, solitaire, au milieu d'une place rustique.
Les seuls êtres vivants sont quelques poules qui picorent distraitement la poussière au pied de la gloire nationale, à côté de quelques troncs d'arbres abattus.
Le silence qui émane de ce bout de carton est assourdissant.
L'absence de vie humaine autour du monument ne fait qu'accentuer le poids morbide de l'absence de ceux dont les noms sont inscrits dessus. C'est la banalité du monde rural qui continue de tourner, indifférente au drame.
Cette esthétique du vide nous conduit progressivement vers la quatrième et dernière typologie, le monument en arrière-plan.
Dans ces cartes postales des années 30 ou 40, l'édifice commémoratif perd son statut d'acteur principal. La carte de Compoliba illustre bien ce glissement.
Le photographe réalise une vue générale et commerciale de la place du village pour montrer le café, l'épicerie, la route.
Et le monument aux morts est relégué dans un coin de l'image. Il est devenu si discret qu'il faudrait presque une loupe pour le repérer s'il n'était pas mentionné en toutes lettres dans la légende imprimée par l'éditeur.
Le sanctuaire est devenu un simple élément du mobilier urbain. Et cette banalisation de la pierre amène des situations que les anciens de 14-18 n'avaient absolument pas prévues.
L'anecdote de la commune de Gaillac d'Aveyron, documentée par deux cartes postales distinctes, raconte ça avec beaucoup de saveur.
Au départ, dans les années 20, l'accès au monument était pensé pour être totalement libre. Il fallait que la veuve puisse venir effleurer le nom de son mari du bout des doigts. Les marches formaient un espace ouvert.
Mais la vie humaine a horreur du vide et du sacré permanent. Que s'est-il passé à Gaillac ?
Les enfants du village, trouvant les larges marches ensoleillées très confortables, ont pris l'habitude de venir s'y asseoir, d'y jouer aux billes, d'y discuter après l'école.
Et pour les anciens combattants locaux, voir des gamins s'esclaffer sur la tombe symbolique de leurs frères d'armes s'était perçu comme une profanation insoutenable.
La réaction des autorités locales a été de repousser physiquement la vie quotidienne. La première carte postale de Gaillac révèle une tentative de protection presque désespérée.
Une barrière de fortune faite de piquets de bois grossiers et de fils de fer encercle le socle.
Et la deuxième carte, éditée quelques années plus tard, montre la capitulation face au besoin de sanctuariser l'espace de manière permanente.
Une grille métallique en fer forgé, solide et hérissée de pointes, entoure désormais le monument. Sur cette image, on voit d'ailleurs des enfants se tenir à très bonne distance.
Cette évolution architecturale, du fil de fer à la grille forgée, symbolise l'éloignement psychologique de la société entière.
La plaie ouverte et intouchable de 1919 est devenue une cicatrice institutionnelle qu'on met sous cloche pour la protéger de l'usure du temps et de l'oubli.
C'est fou de réaliser qu'une simple clôture en fer, immortalisée par hasard sur une carte postale rurale, en dit aussi long sur la sociologie du deuil.
Si on relie ça à une vision plus globale, c'est bien la démonstration éclatante que le travail de fourmi réalisé par le Cartoclub Avronais est d'utilité publique.
L'histoire, la grande, celle des manuels et des ministères, ne s'écrit pas seulement dans les ors du château de Versailles avec un traité de paix.
Elle se vit, elle se souffre et elle se négocie sur la place cabossée d'un village de 300 âmes. Elle se lit dans les conventions mesquines pour savoir si un coq ou une croix dominera le paysage.
Et elle se diffuse par le biais de ces humbles rectangles de carton que les facteurs distribuaient chaque matin.
L'imagerie populaire n'est jamais neutre. Ces cartes postales sont les témoins silencieux, mais irréfutables d'une nation qui a dû apprendre, pierre après pierre, débat après débat, à vivre avec ses fantômes. Guy Mazars et Gérard Naudan nous rappellent que les archives les plus modestes recèlent souvent les clés psychologiques les plus profondes d'une époque.
C'est une plongée documentaire absolument magistrale qui fait résonner la pierre taillée avec une humanité désarmante. Et cela ouvre une perspective qui mérite qu'on s'y arrête un instant en guise de conclusion ouverte.
Vas-y.
Dans les années 20, la société disposait de la carte postale physique, ce médium tangible, imprimé, envoyé, conservé dans des boîtes à chaussures, a permis de figer la mémoire d'un cataclysme et de la transmettre jusqu'à nous, un siècle plus tard. Mais aujourd'hui, notre époque génère des milliards de photographies numériques par jour, des flux incessants sur des serveurs distants, des stories éphémères qui disparaissent en 24 heures.
C'est vrai que la matérialité de l'archive a complètement disparu.
Du coup, quel sera le support qui documentera la résilience des sociétés face à nos propres bouleversements contemporains ? Les historiens du 22e siècle auront-ils la chance de trouver, dans nos nuages de données invisibles, des traces mémorielles aussi tenaces, aussi détaillées et aussi poignantes que ces petits rectangles de carton à Véronée ?
Une question complexe qui laisse vraiment matière à réflexion.
À la prochaine pour une nouvelle exploration dans les méandres passionnantes de nos archives communes.